Remue ménage, donc à l'occasion du 25 novembre, journée internationale contre les femmes.
Contre les violences faites aux femmes.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Contre les femmes, t'as dit.
Quelle horreur. Et ben c'est ça, voilà. Effectivement, ces violences contre les femmes, c'est une action contre les femmes. C'est vraiment un acte de destruction à l'échelle planétaire contre les femmes qui touche les femmes, qui touche tout le monde. Effectivement, peu de femmes en échappent ou peuvent dire qu'elles ne sont jamais confrontées à ça, qu'elles ne le seront jamais. Jamais, il n'y a pas d'endroit protégé. Et surtout pas la maison, puisqu'il semble que la maison soit un des endroits les plus dangereux, en plus. Alors effectivement, il y a tout un, des groupes au niveau... 105 groupes, tu l'as dit, qui font circuler une pétition pour que cette violence qui touche les femmes soit considérée comme un abus aux droits de la personne. Alors il y a déjà, en fait, des germes de cela dans l'action pratique des personnes qui sont concernées par la problématique des droits de l'homme sur le terrain. Il y a par exemple les femmes d'Amnesty International qui ont porté sur le devant de la scène les violences commises dans un cadre répressif contre les femmes en tant que femmes. Ce sont les viols commis dans les prisons, ce sont le mauvais traitement aux femmes avec leurs petits-enfants dans les prisons, etc. Donc il y a déjà cette visibilité et il faut vraiment remercier les femmes d'Amnesty International qui ont fait ce travail. Amnesty n'a jamais fait ce travail. En tant que telle, l'organisation n'a jamais pris comme cas de torture les viols dont on sait qu'ils sont systématiquement utilisés contre les femmes arrêtées pour des raisons politiques dans des régimes totalitaires. Alors ça, c'est une première chose, mais on voit tout de suite la limite de cette approche, c'est que le viol est un abus aux droits de l'homme quand il est en prison, mais pas dans la rue. On va protester si une personne est mise en prison parce qu'elle a défendu des homosexuels, mais on ne proteste pas quand c'est l'homosexuel qui se retrouve en prison. Donc il y a une contradiction, même si elles font un travail dont je crois qu'il faut souligner l'importance. Il y a une autre approche qui consiste à dire la violence contre les femmes, elle est due à leur dépendance économique. C'est en fait l'exploitation des femmes qui est mise en cause et non plus l'oppression des femmes, si on peut dire. L'exploitation dans le sens où on voit dans sa dépendance économique les raisons de sa vulnérabilité à la violence. Alors, c'est intéressant cette démarche dans la mesure où, sur le terrain, des gens qui sont impliqués dans des activités, par exemple, de développement, vont essayer d'augmenter, d'enrichir, si on peut dire, les femmes en leur facilitant l'accès au crédit, en leur facilitant l'accès à la propriété de la terre, aux moyens de production, etc. Donc, il y a un mouvement de dire enrichissons les femmes et comme ça, elles seront moins victimes. Alors là, ce qu'on peut se dire, c'est que dans des pays, en tout cas dans des régimes, par exemple les régimes communistes, n'ont jamais enrayé la violence contre les femmes, ou les régimes socialistes. Donc la violence, elle est sûrement effectivement liée à des problèmes économiques, mais comme tu le disais bien, il n'y a pas que ça, il y a aussi la relation de dépendance, de pression que subissent les femmes qui font qu'elles continuent à être frappées, violées et victimes. Il y a également une approche juridique qui est mise en avant. Ça, beaucoup au niveau des Nations Unies. Il y a la convention, comment est-ce qu'elle s'appelle ? J'ai déjà oublié. La convention pour l'élimination de toute forme de discrimination contre les femmes, qui a été signée à l'ONU en 1979, ratifiée par 104 pays. Mais je crois qu'elle est un peu, n'est pas très utile, pas très utilisée. Donc on a déjà des amorces de liens pour se raccrocher à ce bateau des droits de l'homme, dont on aimerait qu'il devienne des droits de la personne. Mais il convient maintenant de dire, à la fois de demander, mais surtout d'imposer publiquement ces violences comme des abus. Ce n'est pas... Je m'explique là, je suis un peu confuse. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander qu'on reconnaisse ces violences comme des droits de l'homme, on va imposer ces violences en disant « ce sont des violations aux droits de l'homme ». On va les mettre sur le devant de la scène. C'est ce qu'ont fait, par exemple, les femmes en Argentine qui ont modifié le concept même des droits de l'homme. Le concept de disparition n'existait pas avant l'action des folles de la place de Mai, et c'est elles qui, par leur action, l'ont imposé. Et je crois que ça doit être un peu notre démarche de dire, mais ces violations, ce sont des violations. Il faut transformer pour que la totalité de la vie des femmes soit intégrée dans cette conception des droits de l'homme, il faut la transformer fondamentalement. C'est vraiment une... On va travailler sur ce concept. Et là-dedans, je pense que ça peut se faire que dans des réseaux de solidarité entre les femmes du monde entier qui, sous une forme ou d'une autre, subissent ces violences. Et c'est vraiment à travers cette solidarité, je crois, uniquement qu'on pourra modifier, imposer notre point de vue et essayer de transformer les rapports entre hommes et femmes.
Et dans ce sens-là, Marie-Aimée, je crois qu'au travers du travail que vous effectuez dans le réseau des femmes vivant sous loi musulmane, ce travail, il est très important, ce que vous pouvez établir, que vous tentez d'établir entre les femmes vivant dans les nombreux pays qui ont des lois musulmanes.
Oui, je vais vous parler rapidement peut-être du réseau Femmes sous loi musulmane qui a été fondé en 84 pour répondre à des situations urgentes de violence par rapport à des femmes. Par exemple, 3 féministes algériennes qui ont été arrêtées et tenues au secret pendant 7 mois pour avoir lu et expliqué à d'autres femmes algériennes le contenu du code de la famille qui restreignait nos libertés. C'est en mai 84, c'est-à-dire plus de 20 ans après l'indépendance, que nous avons perdu le droit de nous marier, nous devons être donnés en mariage par un tuteur matrimonial, nous avons perdu le droit au divorce, seul l'homme peut divorcer sauf cas rarissime, nous n'avons pas un droit égal à l'héritage, nous n'avons pas la garde de nos enfants après divorce, la répudiation est maintenue et la polygamie est maintenue également. Donc, ces femmes, pour avoir expliqué le contenu du code de la famille, se sont retrouvées en prison et sans avocat, sans procès, sans rien, quoi, au secret, pendant 7 mois. Et on a fait une campagne internationale avec d'autres organisations, d'ailleurs, pas nous seuls. Mais à cette occasion, on s'est aperçu que pouvoir générer du soutien de l'intérieur des pays musulmans nous donnait une crédibilité que nous n'avions pas quand nous demandions du soutien exclusivement aux démocrates des pays occidentaux. C'est donc à partir d'un cas de violence contre les femmes que nous avons démarré. Immédiatement après, il y a eu le cas d'une Indienne qui est allée en Cour suprême en disant que ses droits qui lui étaient garantis par la Constitution de l'Inde lui étaient déniés quand on lui appliquait la loi de statut personnel des musulmans en Inde. Elle avait été répudiée d'une façon que n'aurait pas autorisé la constitution de l'Inde.
Qu'est-ce que c'est que la loi de statut personnel ?
La loi de statut personnel, c'est quelque chose qui est actuellement central à l'identité des musulmans, mais je pense que j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, et qui gère en fait les questions de mariage, de divorce, enfin des choses qui s'apparentent plus au domaine de la sphère privée et qui donc affectent principalement les femmes. Le réseau Femmes sous loi musulmane lie des femmes de pays musulmans et de communautés musulmanes, et par communauté musulmane, nous entendons précisément des communautés qui sont régies par une loi de statut personnel, c'est-à-dire une loi de minorité, si vous voulez, et qui en fait sont concentrées autour des codes de la famille. Bon, donc ce deuxième cas, ça a été cette femme répudiée, et le troisième cas qui nous a rassemblés, c'était le cas d'une Sri Lankaise qui avait été envoyée comme domestique à Abu Dhabi. Vous savez que les pays du Golfe sont grands consommateurs de beaucoup de femmes du tiers-monde qui viennent comme domestiques, mais beaucoup aussi de femmes de pays musulmans, parce qu'ils préfèrent avoir des domestiques qui sont des musulmanes. Et le Sri Lanka est un grand exportateur des femmes musulmanes, de sa communauté musulmane, pas exclusivement, mais tout à fait, de façon tout à fait significative. négative. Parce qu'on a toujours l'impression que les femmes musulmanes, ça sort pas de chez soi, c'est cloîtré, etc. Oui, sauf quand ça arrange le gouvernement. Et voilà, exporter les bonnes au Sri Lanka, c'est un très bon exemple du fait que c'est pas religieux, que c'est politique. Quand ça peut servir à l'économie d'un pays ou à résoudre des problèmes politiques, on exporte les femmes musulmanes tout à fait officiellement et sans aucun problème. Donc c'était notre troisième cas. Elle avait été, bien entendu, ces femmes sont exploitées de toutes les façons, c'est-à-dire elles n'ont pas d'horaire de travail, c'est jour et nuit, etc. Et entre autres choses, elles sont exploitées sexuellement par leur patron. Et ce sont des pays, les pays du Golfe et le Pakistan, où la sexualité hors mariage est punie de mort. Donc cette femme avait été violée par son patron, elle avait été enceinte. Du fait qu'elle était enceinte, il était donc prouvé qu'elle avait eu une sexualité hors mariage. Elle avait donc été emprisonnée, condamnée à mort par lapidation. Elle devait attendre en prison faire naître l'enfant, elle devait attendre la naissance, le nourrir pendant 2 mois et ensuite être lapidée. Donc il y a eu aussi une grosse campagne, on n'était pas les seuls dans cette campagne, mais ça nous a beaucoup rassemblés. Et on a réussi, puisqu'elle était étrangère, à la faire expulser sur le Sri Lanka. Mais il y a des milliers d'autres femmes qui sont dans ce cas-là, dans les geôles d'Abu Dhabi et d'ailleurs. Donc on a commencé par des actions urgentes en réponse justement à des violences faites aux femmes. C'est ça qui est le point de départ du réseau. Et ensuite, nous avons évolué vers une forme plus permanente de liaison et de solidarité. Et nous avons plusieurs volets à nos actions. D'une part, on continue le soutien à des cas précis. Donc on a fait un certain nombre d'actions pour des femmes et on continue à en faire. Alors actuellement, on soutient cette Syrienne qui veut rester en Allemagne et pas retourner se faire tuer par son mari. Mais aussi, par exemple, des protestations contre la loi justement qui punit de mort la sexualité hors mariage. Donc des choses plus vastes qu'un cas personnel, si vous voulez. Donc ces actions de solidarité sont au centre du réseau. Et on fait aussi de l'information systématique. Ce que Viviane a dit tout à l'heure, l'échange d'informations, ou ce que Yolanda a aussi dit, c'est absolument crucial que les femmes sachent ce qui pourrait arriver ou soient informées des risques qu'elles courent, des moyens de se défendre, etc. Donc, par exemple, en Algérie, au moment où le fils a failli prendre le pouvoir, le fils avait déclaré qu'il ferait passer une loi semblable à celle qui existe à Abu Dhabi ou au Pakistan, qui s'appelle Hudud Ordinance, donc punissant de mort la sexualité hors mariage. Et nous avons pu immédiatement passer cette information de première main, directement des Pakistanaises aux femmes en Algérie, pour qu'elles puissent voir ce qui leur allait leur arriver et donc se défendre d'autant mieux. Donc ce volet d'information, il n'est pas gratuit, il est lié à la défense des femmes, la façon la plus immédiate possible. Et puis, le troisième volet de ce que fait le réseau, ce sont des projets collectifs. On se met d'accord sur des choses qui nous paraissent essentielles à faire en commun. Alors, on en a eu plusieurs, et celui qui est en train actuellement, nous l'appelons le projet Femmes et Lois. Et ce qui est très extraordinaire pour nous, c'est que nous avons le soutien des femmes en Suisse et des syndicats aussi pour nous aider à réaliser ce projet et qui est donc véritablement une action de solidarité avec notre réseau. Ce projet consiste à compiler et comparer les lois qui affectent spécifiquement les femmes dans les pays musulmans ou les communautés musulmanes de façon à pouvoir démontrer que d'une part, ce ne sont pas des lois d'inspiration religieuse, mais ça a à faire beaucoup plus avec des différences culturelles. Par exemple, il y a des femmes qui sont excisées dans certains endroits et pas dans d'autres. Et ce sont des deux pays musulmans, si vous voulez. Il y a des femmes qui sont voilées dans un pays musulman, pas voilées dans un autre pays musulman. Il faut rappeler que l'islam, ça couvre 3 continents et probablement 4 maintenant. Que donc les différences culturelles sont très très importantes. Et c'est tout à fait différent pour les femmes de se défendre en disant on n'en veut pas parce que de toute façon c'est pas religieux, alors que la religion prend une telle importance dans l'identité des musulmans actuellement. Et puis, on veut donc aussi montrer qu'il y a des pays musulmans où il y a des lois absolument formidables, comme la Tunisie, où les femmes ont énormément de droits et pratiquement l'égalité des droits avec les hommes. Et donc, on voudrait promouvoir le meilleur scénario et aussi éviter le pire scénario. Pouvoir prévenir les femmes que le modèle iranien, c'est ce qui s'exporte le mieux actuellement et qu'on n'en veut à aucun prix. Et que quand il y a des lois comme la Hudud Ordinance au Pakistan, il faut savoir ce que c'est pour empêcher que ça vienne chez soi. Donc c'est ce projet de compilation, comparaison, analyse, mettant en lumière les différentes sources des lois, donc démontrant que ça n'est pas l'islam, que c'est l'utilisation d'une interprétation de l'islam, de la culture et par-dessus tout, des besoins politiques des dirigeants qui sont prêts à tout exploiter pour parvenir à leur fin et rester au pouvoir, et qu'on peut se défendre si on a ces liens et si on a cette connaissance. Et on espère déboucher sur des actions collectives aussi, et pas seulement sur une recherche collective.
Tu as un exemple très précis, je crois, à nous donner, par exemple, qui concerne l'Algérie, à propos de la contraception.
Ça ne concerne pas que l'Algérie. C'est un exemple idéal pour démontrer que les pays musulmans n'ont pas une politique islamique, par exemple en ce qui concerne la contraception et l'avortement. Parce que dans chaque pays, et dépendant des besoins politiques du moment, on a une politique ou on en a une autre. Par exemple, en Algérie, de 62 à 74, on nous a complètement interdit non seulement la contraception et l'avortement, mais même la connaissance concernant la contraception et l'avortement. C'est-à-dire qu'on a prorogé la vieille loi nataliste de la fin de la Première Guerre mondiale française. La loi française de la fin de la Première Guerre mondiale, sans aucun égard pour le nationalisme algérien, etc., etc., parce que ça servait les intérêts politiques du moment. Donc, en 1974, après une explosion démographique où on avait 3,5 d'accroissement de la population, la moyenne d'enfants vivants par femme, c'était 7,9, et un nombre impressionnant de grossesses non menées à terme par femme. Et donc, les bureaucrates dits socialistes en Algérie se sont vus menacés par une vague de lumpen prolétariat qui n'avait plus, il n'y avait plus assez de place dans les écoles, plus assez de place sur le marché du travail, certainement. Et donc, cette loi a été renversée d'un jour à l'autre pour préserver les intérêts du pouvoir. Et néanmoins, avant comme après, ils nous ont dit que c'était islamique. En Tunisie, depuis l'indépendance, les femmes ont accès à la contraception et à l'avortement libre et gratuit. Au Pakistan, les femmes ont la contraception, pas l'avortement. Au Bangladesh, elles ont la contraception, l'avortement et la stérilisation forcée, qu'elles le veuillent ou non. Ce sont tous des pays musulmans et ils nous disent tous que c'est le Coran qui permet leur politique.
Oui, Jeanne. Profiter de ta présence à côté de moi, et je voulais te demander qu'est-ce que dit la loi musulmane par rapport à la prostitution, qu'est-ce que dit l'islam par rapport à la prostitution, comment ça se présente.
Eh bien écoute, l'islam, ce que dit l'islam, je ne le sais pas parce que je ne suis pas théologienne et que les interprétations du Coran sont multiples et diverses. Il suffit de comparer toutes les traductions qui nous sont proposées dans les langues diverses et les interprétations du Coran. Moi, je ne suis pas capable de te dire ce que l'islam dit là-dessus. Mais ce que disent les pays musulmans, ça varie d'un pays à l'autre. Il n'y a pas de loi qui sanctionne la prostitution dans tous les pays musulmans, bien au contraire. Il y a des pays où c'est sanctionné, des pays où c'est toléré, des pays où on n'en parle même pas dans la loi. Donc il n'y a pas de position.
Il n'y a pas une tendance par rapport à la loi musulmane. Ça, on peut pas. Ça varie vraiment d'un pays à l'autre.
Et surtout, l'application en plus varie. C'est-à-dire que la prostitution, il y en a absolument partout. Dans tous les pays musulmans que je connais, on dit que ça n'existe pas. Mais nous avons toute la preuve, naturellement, que ça existe et abondamment. Et je pense que dans un pays comme le Pakistan, où il y a une loi qui réprime toute sexualité hors mariage, on doit utiliser cette loi quand on veut, contre les prostituées, et puis les laisser vivre le reste du temps, puisque ça permet aux hommes d'aller se satisfaire auprès d'elles. Et que donc, il y a cette dualité perpétuelle, qu'on peut sortir le bâton et frapper les prostituées à n'importe quel moment grâce à cette loi, mais bien entendu, c'est toléré tout le reste du temps quand ça convient aux intérêts des hommes. Et je pense que c'est probablement un cas très très répandu de dualité de l'application des lois. Mais il n'y a rien, à ma connaissance, de commun à tous les pays musulmans.
Je vois que c'est de nouveau régi par les hommes. Et quand on dit toujours que la prostitution, enfin on dit la prostitution, on parle de femmes, toujours de femmes prostituées. On oublie trop souvent encore que la prostitution, c'est les hommes qui font la prostitution. Parce que c'est les hommes qui sont les clients. Et c'est la majorité des personnes touchées par la prostitution, c'est les hommes, pas les femmes. Et là, en effet, c'est de nouveau, je pensais justement, en te posant cette question aussi, je pensais à cette loi qui punit la sexualité en dehors du mariage. Je me dis comment les hommes s'en sortent avec ça. Mais en effet, ils s'en sortent parce que c'est les femmes qui sont soit punies, soit pas punies selon leur demande.
Oui, je voudrais te citer le cas des viols, par exemple au Pakistan. La loi donc punit la sexualité hors mariage. Donc si une femme est violée et qu'elle va à la police pour dire « j'ai été violée », il va falloir qu'elle le prouve. Or, pour prouver un viol au Pakistan, la loi dit qu'il faut 4 témoins oculaires, des hommes musulmans de bonne réputation. Alors, tu vois, l'impossibilité où on peut être de prouver le viol, parce que s'ils étaient de bons musulmans de bonne réputation, ils ne resteraient pas tous les 4 assis à regarder une femme se faire violer, du moins nous l'espérons. Donc, on en arrive à ce paradoxe qu'une femme qui va dénoncer un viol qu'elle a subi ne peut pas le prouver, mais par contre peut être immédiatement mise en prison et jugée parce qu'elle a implicitement admis qu'elle avait commis le crime de sexualité hors mariage, cependant que son violeur reste impuni. C'est un des débouchés de cette loi épouvantable.
Puis, je me souviens plus exactement du nom du personnage ni de son rôle, mais c'était quelqu'un justement au Pakistan très proche du pouvoir, si ce n'est pas un homme de pouvoir qui a été trouvé il y a quelques mois dans un bordel et qui, bon, finalement, il a démissionné, mais je crois que c'est la seule chose qui lui soit arrivée.
Je voudrais dire aussi que cette loi est utilisée contre les femmes de bien des façons. Par exemple, quand on veut se débarrasser d'une épouse, d'une sœur, etc., qui peut être gênante, par exemple, pour une question d'héritage ou pour n'importe quoi, on l'accuse de sexualité hors mariage. Et elle est immédiatement mise en prison. Et après, ça dure des années avant de pouvoir faire poursuivre le procès, etc. Il y a des milliers de femmes qui sont en prison pour ce type d'accusation avant qu'il y ait procès, et donc on s'en est débarrassé. C'est quelque chose qui permet de se débarrasser des femmes.
D'ailleurs, à propos de ça, je vais faire une petite diversion. J'ai entendu dernièrement une conférence sur le droit de vote en France, et je me suis rappelé aussi les arguments qui étaient avancés par les opposants au droit de vote des femmes en Suisse, donc il y a à peine 20 ans, en 71. Et une des choses, on a toujours fait l'analogie entre une différence d'opinion politique et l'adultère. Le droit de vote des femmes, en fait, aurait introduit l'adultère dans la famille, c'était un véritable adultère politique que d'imaginer qu'une femme puisse voter autrement que son mari. Et ce sont des arguments qui ont été avancés en 71 en Suisse. Contre le droit de vote des femmes. Ah, c'est oui. Que c'est comme si elle aurait amené, c'était un adultère. Et on voit bien justement, là, c'est un exemple qui montre bien l'importance politique de ces violences contre les femmes. C'est la même chose. Finalement, avoir une opinion politique et avoir une liberté sexuelle, une liberté sur son corps, c'est aussi une liberté politique.
Myriam, peut-être une dernière question. Est-ce que les femmes dans les pays musulmans qui font partie du réseau que tu coordonnes, réseau des femmes vivant sous la musulmane, sont aujourd'hui organisées et prêtes à témoigner ouvertement de ce qu'elles vivent? Parce que il semblerait urgent que le monde découvre encore plus concrètement ce qui se passe, tout ce que tu nous racontes, que cela dépasse le cadre des radios locales telles que la nôtre, qui malheureusement a sa puissance telle qu'on la connaît, et qui aurait besoin de pouvoir être entendu bien plus loin par rapport à toutes les choses importantes qui s'y disent.
Oui, les femmes sont prêtes à témoigner auprès des institutions internationales, mais c'est à double tranchant parce que, en fait, on est amené à venir dénoncer en Occident des choses qui se passent chez nous, et ça alimente une opinion d'extrême droite. Donc, on est toujours en porte-à-faux par rapport à ça. Et ce qui nous paraît de loin le plus important, c'est de mobiliser les femmes chez nous. Mais oui, on est prête à témoigner sur la scène internationale, pourvu qu'elles ne se réduisent pas à l'Occident, si possible.
Bien, alors nous arrivons au terme du remis-ménage. C'était donc cette émission spéciale le 25 novembre qui commémore la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Une pétition donc circule, pétition qui va être adressée, qui a déjà été adressée avec 140 000 signatures aux Nations Unies pour que le concept même des droits de l'homme soit élargi, tienne compte, comprenne les violences faites aux femmes. Cette pétition, vous pouvez la signer dans plusieurs lieux. La pétition circule dans des lieux comme le centre Aspasie, comme le centre de santé des femmes, Rosa Cadina, comme la permanence de viol secours. Elle se trouve aussi dans certaines librairies, entre autres la librairie L'Inédite, la librairie Que faire à la place des Grottes et la librairie du boulevard à la rue de Carouge. Et on s'est donc donné 10 jours pour signer cette pétition, 10 jours qui correspondent donc à aujourd'hui, Journée internationale contre les violences faites aux femmes, jusqu'au 10 décembre, qui correspond à l'anniversaire de la déclaration justement des droits de l'homme. Cette liste de signatures sera ensuite portée lors d'une des commissions préparatoires pour la réunion sur les droits de l'homme qui se tiendra à Vienne en juin 1993. Je vous rappelle aussi que le collectif du 14 juin et l'organisation syndicale Solifon ont donc lancé un soutien actif pour participer à ce projet Femmes et Lois, soutenir donc ce réseau des femmes vivant sous loi musulmane dans le projet très concret des femmes et Lois. Et nous avons proposé de donner un jour de salaire. Un jour de salaire par an, c'est bien immense, mais ça peut être une contribution à la fois importante financière et à la fois un geste de soutien, de solidarité par rapport à cette lutte. Vous pouvez donc participer à ce soutien en versant de l'argent au compte de Solifon. Je vous donne le numéro de compte. C'est le nom, compte 80-77-61-7. Je répète, 80-77-61-7 avec mention femme sous loi musulmane. Et voilà. Je vous rappelle également l'adresse peut-être d'Aspasie. Aspasie, donc, est un centre de soutien aux femmes prostituées à Genève.
Johanna, qui se situe donc à Genève, dans les quartiers des Paquis, au 10 rue Charles Cusin, 1201 Genève. Numéro de téléphone 732 68 28.
Tu peux le répéter peut-être.
732 68 28. Et vous nous trouvez pendant les heures de permanence dans nos locaux qui ont lieu de lundi au vendredi de 16h à 18h ou en dehors de 16h sur rendez-vous à d'autres moments.
Voilà, et Remue-Ménage se termine sur ces rendez-vous, sur ces possibilités de solidarité. Et puis, nous vous retrouvons la semaine prochaine, bien sûr. À bientôt. La semaine prochaine où nous vous proposons une rencontre avec une écrivaine suisse, mais qui a vécu longtemps en Afrique du Sud, c'est Marie-Noëlle Andersen. Marie-Noëlle Andersen qui a écrit un livre qui s'appelle « Couleurs d'exil » et qui évoque la situation des gens qui ont dû quitter l'Afrique du Sud pendant toutes ces années de ségrégation raciale qui ne sont toujours pas finies, nous le savons bien. Alors voilà, à la semaine prochaine, rendez-vous avec « Couleurs d'exil » et l'Afrique du Sud. Radio Zone 93.8 et c'est toujours Onde Femme, la radio que vous préférez, bien sûr.
Samukela wa mwana Afrika, Samukela wa mwana Mozambique. Samukela o yari Afrika, Samukela, Samukela wa mana Afrika, Samukela wa mano Mozambiki, Samukela o yari Afrika, Samukela. Samukela, mana, Samukela, Samukela, mana, Samukela, eh, Afriko yo, Samukela, mana, Samukela. Samukela, mpela, okumela, wela. Abinuna serebeja na mpalela Samukela Samukelo mpela okumela weta Indi ya kiveti mote ni mpiela Abinuna serebeja na mpalela Samukela Samukela, mana, Samukela, eh, Afrikolo, Samukela, mana.